Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une maladie dont le nom est associé aux morsures, aux animaux, à la douleur et aussi parfois à la peur. La rage tue encore une personne toutes les 10 minutes dans le monde, essentiellement en Asie et en Afrique, où se concentre l'essentiel, peut-être 95% des cas mortels. Alors, si la rage ne tue plus en France depuis près de 90 ans, grâce au vaccin découvert par Louis Pasteur en 1885, elle reste une maladie redoutable. Redoutable car toujours mortelle une fois les premiers signes déclarés. La journée mondiale contre la rage, c'est demain. L'occasion ici, dans Priorité Santé, de parler de la prévention de cette maladie qui provoque encore près de 60 000 décès au moins chaque année. Avec nous en studio, le docteur Philippe Poujol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du centre antirabique au sein du centre médical de l'Institut Pasteur à Paris. Également avec nous, Hervé Bourri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du centre national de référence de la rage à l'Institut Pasteur, directeur du centre de référence et de recherche sur la rage de l'OMS. La rage qui touche l'Asie, l'Afrique. Nous retrouvons au Cameroun le docteur Mathurin Tejiokem qui dirige lui le centre d'épidémiologie de santé publique au centre Pasteur du Cameroun. Et puis en deuxième partie de Priorité Santé, nous serons en ligne de Phnom Penh avec le docteur Sowatli, directeur adjoint de l'Institut Pasteur du Cambodge. En fin d'émission, enfin, nous retrouverons notre chronique sport, le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe nationale de judo. Docteur Philippe Poujol, Hervé Bourri, merci d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Alors, l'ensemble des intervenants aujourd'hui travaillent pour les instituts ou les centres Pasteur. Louis Pasteur, son nom est incontournable quand on parle de la rage, le célèbre scientifique, microbiologiste. C'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui, découvreur du vaccin contre la rage. On dit antirabique dans le langage scientifique, c'était en 1885. Docteur Philippe Poujol, qui aujourd'hui doit se vacciner contre la rage?
Alors déjà, toutes les personnes qui ont été mordues, griffées ou léchées sur des plaies par des mammifères, quel qu'il soit le mammifère, alors essentiellement le chien, parce qu'il est responsable de plus de 90% des cas de mort dans le monde, nous sommes d'accord, mais tout mammifère peut aussi donner la rage. Donc déjà, dans tous les pays d'hémirabique, toute personne dans cette situation-là doit se faire vacciner. Et puis, en cas de cas suspect de rage, ça peut arriver même dans les pays occidentaux, parce qu'on peut avoir des animaux illégalement importés qui peuvent avoir un comportement anormal et éventuellement déclencher la rage. C'est exceptionnel, mais ça arrive. Et puis, évidemment, on peut se faire vacciner en pré-exposition, c'est avant d'être mordu, griffé. Ça assure une certaine immunité. Le temps, ça donne du temps, un peu de temps, pour pouvoir faire la vaccination sur place, dans les pays qui sont malheureusement peu pourvus en produits médicaux anti-rage. Vaccin et immunoglobuline antirabique.
Alors là, on parle de la vaccination humaine, mais bien sûr, en Europe, dans beaucoup de pays du monde, la vaccination concerne bien évidemment les animaux. Hervé Bourri.
Oui, bien sûr, les animaux, comme l'a rappelé Philippe Poujol, sont les vecteurs de la rage, ce sont eux qui assurent la transmission. Et donc, il est important pour casser le cycle épidémiologique, donc pour finalement libérer un territoire de la rage, de vacciner à la source, c'est-à-dire de vacciner l'animal. Donc, on vaccine dans nos pays pour se protéger des cas d'importation, comme l'a dit le docteur Poujol. Et on pousse aujourd'hui tous les pays d'endémie à vacciner leurs animaux, en particulier les populations canines. Et ça fait l'objet de grands programmes menée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'équivalent animal, l'OIE, l'Organisation Mondiale de la Santé Animale, et en conjonction avec la FAO et l'Alliance Globale pour la Rage, l'association dénommée GARC.
Alors, quand on parle de la rage, il y a bien une géographie de la rage. On dit des zones endémiques, des zones touchées. Et puis, d'autres, comme la France, en Europe, pas mal de pays où la rage a quasiment disparu. Même chose pour, par exemple, l'Amérique du Nord.
C'est ça, les statuts des pays sont fort différents. C'est toute la problématique, effectivement, et la complexité de la lutte contre la rage. Vous avez des pays qui ont libéré leur territoire de la rage, et de la rage des animaux qu'on appelle non-volants, comme le chien ou le renard, c'est le cas de la France. Vous avez des pays qui sont dans une situation intermédiaire où il reste encore de la race des animaux sauvages, mais plus de race du chien. Et vous avez des pays où il y a tout encore. On peut citer par exemple l'Iran, avec une complexité très importante épidémiologique, où on a probablement à la fois de la rage canine et de la rage du renard et d'autres espèces animales.
Vous disiez animaux volants parce qu'il y a aussi un vecteur important de la rage, ce sont les chauves-souris.
Alors, ces chauves-souris, elles hébergent en particulier sur nos territoires, en Afrique et en Asie, des virus qui sont un tout petit peu différents du virus rabique dont on parle aujourd'hui, mais qui peut entraîner effectivement l'expression de la rage chez l'homme lorsque l'homme est contaminé. Et donc, effectivement, on se soucie aussi de ce problème.
Alors, géographie de la rage, on aura l'occasion d'en reparler. C'est pour ça que l'information, notamment aux voyageurs, est assez importante. On va poursuivre cet échange, mais d'abord un petit retour en arrière avec l'extrait de ce documentaire réalisé en 1947. Documentaire sonore pour nous, et on va comprendre ce que représentait la rage à une certaine époque. Un film qui a été tourné à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Louis Pasteur. Il évoque bien sûr cette découverte majeure pour l'histoire de la médecine.
Son esprit de recherche que durant toute sa vie, Pasteur avait appliqué à des domaines si variés, lui valut à 62 ans sa plus étonnante réussite. La guérison de la rage, maladie commune et mortelle à l'époque. Elle se transmet par la salive. C'était donc à la gueule même de chiens enragés que Pasteur prélevait la dangereuse écume. Le virus de la rage se fixant sur la moelle épinière, Pasteur trouva la véritable méthode d'atténuation de la virulence, atténuation indispensable pour créer un vaccin, en laissant vieillir dans l'air sec à 23 degrés une moelle épinière de chiens enragés. Pasteur put entreprendre ses expériences en grand et réussir à tout coup les vaccinations préventives sur les chiens. Un jour, Pasteur reçut la visite d'une femme et de son fils. L'enfant, le jeune Meister, avait été mordu par un chien enragé. C'était la mort presque certaine. Cédant aux supplications de la mère, Pasteur se décida enfin, après bien des hésitations, et encouragé par ses amis médecins, à tenter sur l'enfant la vaccination qu'il faisait subir au chien. Des jours d'angoisse se succédèrent. Et enfin, Pasteur put annoncer que l'enfant était sauvé.
Documentaire de 1947, ça s'entend, signé Georges Rouquier, Hervé Bourri. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des différences entre le vaccin pour les chiens, le vaccin canin et le vaccin humain ?
Bien sûr, il y a des spécialités qui sont faites pour le chien et des spécialités qui sont faites pour l'homme. Alors, votre documentaire était très intéressant parce qu'effectivement...
Là, il utilise le même produit.
Voilà, mais depuis cette époque, on a fait quand même beaucoup de progrès. Les vaccins sont produits sur des cultures cellulaires, sont très purifiés et donc ne présentent aucune contre-indication, pratiquement aucune, et donc peuvent être très largement utilisés. Et le problème, justement, est aujourd'hui de les utiliser de façon adéquate et dans les pays qui le nécessitent. Et c'est tout le problème aujourd'hui qui nous occupe à l'OMS.
Alors, on l'a compris, il y a une vaccination préventive, il y a une vaccination post-exposition. Est-ce que, Hervé Bourri, le produit est le même quand on l'administre avant ou après, en cas de morsure ?
Alors, le produit, effectivement, le vaccin que vous allez recevoir est le même, mais les protocoles sont différents, et ça a été bien exposé par mon collègue le docteur Poujol. Le nombre de doses est différent, et l'intérêt des deux stratégies est totalement différent, puisque dans un cas, vous avez une stratégie de prévention avant même que l'exposition n'ait lieu, et dans le deuxième cas, on est dans une stratégie de prévention de l'évolution de l'infection, puisque l'infection a déjà eu lieu au travers de l'exposition, en particulier de la morsure.
Alors, la morsure, et puis bien sûr on parle des symptômes. Docteur Philippe Poujol, quels sont ces symptômes de la rage ?
Alors, à l'Institut Pasteur, évidemment, nous ne les voyons pas, puisque les gens, quand ils arrivent malades, ils sont directement hospitalisés en France. L'Institut Pasteur n'est qu'un centre médical qui ne prend pas en charge les cas de rage, contrairement à certains instituts ailleurs dans le monde. Donc les symptômes, dans un premier temps, il faut savoir que l'incubation est silencieuse, et ce qui suit en fait son danger, c'est que on n'a pas de symptômes jusqu'à des petits signes prodromiques, c'est-à-dire des maux de tête, un peu de fièvre, des démangeaisons et des prurites, et ce qu'on appelle paresthésie, démangeaisons et des signes neurologiques au niveau de la plaie, ce qui est un peu aussi une caractéristique d'une cicatrisation, donc c'est pas toujours évident de penser que c'est la rage qui débute. Et puis au fur et à mesure que le virus va progresser, il va donner des symptômes neurologiques. Alors il y a deux formes en fait de rage, une forme qu'on appelle paralytique qui est pas la plus connue, qui est 30%, c'est une paralysie ascendante. Petit à petit, on est paralysé, la paralysie monte petit à petit jusqu'aux organes essentiels ça peut aboutir au coma. Cette forme-là est d'évolution plus lente, on le dit, que la forme furieuse, hein, qui est la forme classique que tout le monde reconnaît, qui donne ses symptômes caractéristiques, mais non significatif de la rage, c'est l'hydrophobie, c'est-à-dire que la peur de l'eau, parce que en fait l'eau, les mouvements de l'air et mouvements de l'eau entraînent des spasmes au niveau du larynx qui entraînent une difficulté, une agitation du patient. Le patient est très agité, très angoissé, l'angoisse fait aussi partie des symptômes, et il y a une difficulté pour avaler, pour assurer les fonctions essentielles, les signes qu'on appelle autonomes du système nerveux central, et ça conduit évidemment au coma puis à la mort.
On va prendre tout de suite un auditeur en ligne, hein, c'est Gabin, il nous appelle de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Gabin, bonjour. Gabin, vous êtes avec nous?
Bonjour, bonjour.
On écoute votre témoignage.
Oui, je suis là. Bon. Ok, j'ai un ami qui a perdu récemment sa fillette. Ça veut dire que la fillette avait été mordue par un chien qui s'est arraché. La fille a commencé à venir comme un chien,
on a du mal à vous entendre, Gabin. On s'est parlé avant l'émission, hein. Je vais un petit peu résumer votre propos. Cette petite fille a été mordue par un chien enragé. Elle hurlait. Vous nous avez raconté que selon vous, elle aboyait un petit peu justement à la manière d'un animal, comme si elle était devenue folle. Et vous demandez pourquoi est-ce qu'elle agit de cette manière. Elle est décédée ensuite, cette petite fille. Comment se fait-il qu'elle se soit mise à avoir ces symptômes aussi spectaculaires?
Parce que ça fait partie des symptômes de la rage, justement. Hein. Donc, on a parlé d'une forte agitation et d'une anxiété majeure. Le patient a du mal à être calmé. Il faut de forts sédatifs lorsqu'ils sont hospitalisés en Europe occidentale ou dans le monde. On va dire qu'il y a suffisamment de moyens médicaux pour prendre en charge la rage. Il faut bien comprendre que les gens sont sous forts sédatifs pour pouvoir assurer un confort pour le patient. Et c'est très douloureux. Et c'est très spastique. On est angoissé. On a du mal à avaler. On a des symptômes neurologiques qu'on a du mal à expliquer. Et donc, plus forte raison chez un enfant. On ne peut pas expliquer les choses comme ça. Et donc, la violence des symptômes n'est pas quelque chose d'inhabituel dans l'évolution de la rage.
Un autre auditeur, j'espère que la ligne sera meilleure, c'est parfait, non, on le retrouvera peut-être en deuxième partie d'émission. La rage, zoonose, hein, ce rapport entre les animaux et les humains, transmissible donc des animaux vertébrés aux humains, on l'a dit. On va écouter tout de suite ce témoignage, c'est Jérémy Mazuet, il est vétérinaire clinicien interne à Maison Alfort en région parisienne, parce que forcément, hein, la rage c'est incontournable quand on étudie à l'école vétérinaire.
En tant que praticien, donc je suis effectivement en première ligne, vu qu'on côtoie tous les jours des dizaines d'animaux. On a également un petit peu de ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, les NAC. Donc on a des lapins, on a toutes sortes de rongeurs, plus rarement on peut avoir aussi même des reptiles, des tortues, etc. En fait, je serais à risque si je me fais mordre par un animal dont je ne connais pas la provenance.
Avez-vous déjà été griffé ou mordu par un animal pendant que vous en occupez?
Par exemple, la semaine dernière, il y avait un petit chat qui était un petit peu stressé et il m'a griffé et il a même pu me mordre. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite après? Je suis allé me laver les mains. Ensuite, je suis allé signer un papier de suivi, donc de morsure, etc., pour suivre l'animal pendant les 15 premiers jours, voir si ensuite il déclare des symptômes de rage. Pour moi, je pense que la crainte principale, c'est surtout que la France perde son statut indemne de rage. Il faut vraiment y penser, parce qu'on a tous les cas d'importation illégale, etc. C'est toutes ces suspicions-là, et on l'a toujours dans un coin de la tête, parce que oui, c'est une maladie qui est très très grave. La mission de responsabilité, on va dire, c'est surtout l'information, et la prévention, on va dire. Et sensibilisation aussi. Il faut toujours responsabiliser les propriétaires. On va dire que c'est les principales actions du vétérinaire.
Jérémy Mazuet, vétérinaire clinicien interne avec Tout Neuf Mendy. On l'a compris, information primordiale, cibler les populations, les touristes qui se rendent dans les zones infectées pour éviter des comportements à risque avec les animaux. On en reparle dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
On le disait, l'essentiel des cas de rage concentrés sur deux continents, l'Asie et l'Afrique. Nous sommes avec le docteur Mathurin Tejiokem. Bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous dirigez le service d'épidémiologie et de santé publique au centre Pasteur du Cameroun. Actuellement, vous êtes sur le terrain dans l'ouest du Cameroun, à Bafoussam. Alors, docteur Mathurin Tejiokem, est-ce que la rage, c'est fréquent au Cameroun? Est-ce que beaucoup de personnes sont mordues?
Merci beaucoup déjà de nous avoir invités à cet échange. Je voudrais dire que répondre à cette question est assez difficile pour moi parce que nous sommes dans un contexte où l'insuffisance des données fiables nous caractérise. Cependant, les données que nous avons de disponibles nous permettent d'affirmer que le virus de la rage circule effectivement et fait des victimes.
Vous analysez par exemple des cas, on l'a dit, hein, puisque la rage, quand elle est déclarée, est toujours mortelle, des cadavres aussi bien d'animaux que d'êtres humains qui pourraient avoir été contaminés par la rage, pour vous donner une idée de l'ampleur de la maladie sur le territoire?
Donc pour l'instant, les données qui sont à notre disposition montrent par exemple pour les diagnostics sur les têtes de chiens qui parviennent au Centre Pasteur du Cameroun, qui est le laboratoire national de référence dans ce cadre-là. Sur les 4 dernières années, nous avons reçu environ 90 têtes de chiens et environ 75% sont positives au virus de la rage. Sur le plan humain, nous avons reçu environ 14 échantillons humains et la moitié sont positives au virus de la rage. Et donc ça montre bien que cette pathologie circule et fait des victimes.
Est-ce qu'il y a une bonne information des populations justement sur les risques, ne pas approcher les chiens? Quel comportement des animaux peuvent alerter par exemple?
Pas complètement, et c'est sur ces aspects-là que nous essayons de travailler avec le soutien des ministères de tutelle pour essayer de porter la sensibilisation très loin au niveau de la population, très loin dans les milieux de soins, parce que on voit aussi qu'il y a ce manque d'informations à ce niveau. Donc c'est l'un des éléments sur lesquels nous comptons travailler énormément pour que les populations, que les soignants soient complètement informés de la gestion du risque rabique.
Alors justement, manque d'informations, mais quand les gens soupçonnent une morsure d'un animal enragé, d'un chien enragé, s'ils se rendent dans un centre de soins, est-ce qu'ils peuvent recevoir le vaccin et le traitement post-morsure?
Oui, effectivement, s'ils arrivent dans un centre anti-rabique, ils auront certainement la prise en charge qu'il faut, parce que le vaccin il est disponible, le sérum pas toujours, mais la réalité c'est que cette prise en charge doit être supportée par le patient.
Vous parlez de la prise en charge financière, le produit est disponible, mais le problème c'est bien de payer, parce que ce vaccin, ce traitement, il coûte cher.
Oui, ben si on le dit ainsi, ça va sembler un peu difficile à comprendre, mais quand on mesure un peu la finalité, c'est-à-dire que
c'est une question de vie ou de mort.
Oui, voilà, c'est ça. Si on regarde un peu cet aspect-là, on pense quand même que cette prise en charge n'est pas finalement coûteuse.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des campagnes d'assistance afin de financer justement par des organisations, par exemple, ce type de prise en charge dans l'urgence?
Justement, sur cet aspect-là, il faut qu'on travaille, il faut qu'on profite un peu de l'agenda international qui s'ouvre aujourd'hui avec la rage qui est aujourd'hui inscrite parmi les maladies tropicales négligées, pour s'ouvrir, pour discuter avec les partenaires afin de financer la prise en charge de cette pathologie. Il y a également la possibilité, même en essayant de réviser un peu les protocoles de prise en charge, parce qu'on voit très bien que globalement dans les pays d'Afrique subsaharienne...
Ces protocoles sont longs, on va avoir l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, docteur Mathurin Tejiokem, en ligne du Cameroun. On va reprendre justement cette expression de maladie négligée. C'est très important pour parler du financement et de l'accès au vaccin. Docteur Philippe Poujol, Hervé Bourri, vous restez avec nous. On va se retrouver dans 3 minutes après les informations pour continuer à parler de la rage. Et bonne écoute de Priorité Santé, notre numéro 33 84 22 75 75.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Et on retrouve nos invités en studio pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée à la rage. Docteur Philippe Poujol, responsable du centre antirabique au sein du centre médical de l'Institut Pasteur à Paris. Et Hervé Bourry, responsable du centre national de référence de la rage à l'Institut Pasteur, directeur aussi du centre collaborateur de l'OMS de référence et de recherche sur la rage. Alors tout à l'heure, avant le flash d'information, on a évoqué la situation au Cameroun, l'importance de la vaccination dans un pays touché par la rage quand il arrive un jour de se faire mordre. Et on l'a dit tout à l'heure, docteur Philippe Poujol, peut-être qu'on ne l'a pas assez dit d'ailleurs, ce sont surtout les enfants qui se font mordre par des animaux contaminés, enragés.
Oui, effectivement, et 40% des gens, enfin des personnes qui meurent de rage, c'est une estimation, hein, parce que Hervé peut-être va vous en parler, malheureusement ça repose sur des projections, parce que la maladie n'est peu déclarée dans le monde, on n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir avoir une appréciation globale de la maladie, mais disons, les chiffres que nous avons permettent de dire que 40% des personnes qui meurent de rage chaque année dans le monde ont moins de 15 ans.
Docteur Mathurin Tégiokem, on vous retrouve en ligne de Bafoussam au Cameroun. Peut-être justement par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a une campagne spécifique à faire auprès des enfants, notamment par le biais des écoles.
Oui, justement, les écoles ont été ciblées dans le cadre de cette campagne parce que on estime que passer l'information directement aux enfants, ça pourrait aussi changer la dynamique de la prise en charge.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Mathurin Tégiokem. Vous êtes donc sur le terrain à Bafoussam, puisque c'est demain la journée mondiale de la rage, où vous venez justement informer les populations en tant que chef du service d'épidémiologie et de santé publique au Centre Pasteur du Cameroun. Hervé Bourry, en France, le renard a longtemps été associé à la rage. Ça lui a même donné un aspect un petit peu effrayant qu'il n'a plus aujourd'hui. C'est plus le cas, puisque la fin de la rage a été déclarée en France en 2001. 2030, là, c'est un autre objectif. C'est celui qu'on s'est fixé au niveau mondial.
Voilà, c'est l'agenda dont parlait le docteur Tégiokem et que je salue puisque c'est un collègue que je connais très bien. Et effectivement, son intervention et le coup de téléphone venant de Lubumbashi en RDC illustre parfaitement finalement les problématiques de la rage. Une problématique d'identification des cas au travers du diagnostic, pas de diagnostic que ce soit chez l'animal ou chez l'homme ou très peu. Et quand les diagnostics sont faits, vous voyez que le taux de positivité est énorme, comme l'a indiqué le docteur Tégiokem. Une mauvaise prise en charge des personnes exposées, pas de vaccin disponible, c'est-à-dire que les gens ont à voyager beaucoup pour pouvoir être pris en charge, ou le coût est exorbitant pour leur revenu. Ensuite, il n'y a pas de prise en charge des personnes qui sont là infectées et qui développent la rage, et ça c'est un peu un scandale mondial, c'est-à-dire que rien n'est fait pour ces personnes, elles meurent dans des souffrances horribles, et donc je pense que là qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Enfin, il y a une information générale des populations et une mobilisation des populations au travers des chefs de village, des responsables politiques, des responsables religieux et au travers des écoles, comme ça a été mentionné. C'est quelque chose qui a été très utilisé, par exemple, aux Philippines, en Indonésie, au Sri Lanka, maintenant en Afrique. Et c'est quelque chose qu'on cherche à généraliser parce qu'on s'aperçoit que les enfants sont les premiers touchés et sont des relais d'informations très importants dans les familles.
Alors, encore une question, là, c'est Jean-Marc Libreville au Gabon. Jean-Marc, bonjour.
Bonjour madame.
Alors votre question, Jean-Marc.
Oui, bon, moi c'était juste un petit souci.
Oui, on vous écoute.
Oui, donc je me suis fait mordre un jour par un chat et il m'a griffé.
Un jour, ça remonte à quand?
Bon, ça fait déjà un mois de cela, dans le mois de octobre.
Alors, il y a un mois de cela, donc ça devait être au début du mois de septembre ou à la fin du mois d'août. Jean-Marc, on a compris votre question. Docteur Philippe Poujol, on a parlé des chiens jusqu'à présent, on a parlé des chauves-souris aussi. Est-ce que le chat peut être vecteur de la rage ?
Ben absolument, tout mammifère est sensible au virus et donc à partir du moment où il est mordu par un autre mammifère enragé, il peut lui-même transmettre le virus de la rage quand c'était dans la même espèce de virus. Et donc là, le chat en Afrique, même si c'est pas le réservoir, l'animal réservoir est le transmetteur fondamental de la rage, il peut avoir été mordu par un chien lui-même contaminé et secondairement transmettre la rage. Donc il faut que ce patient se rende dans le centre antirabique parce qu'il est encore dans les délais, il est dans la période d'incubation silencieuse et on peut encore mettre en place une vaccination antirabique post-exposition et on ne doit pas négliger la morsure de chat, même si elle paraît moins à risque que la morsure de chien, bien entendu.
Jean-Marc, vous avez les moyens à Libreville, justement, de vous rendre dans un centre ?
Oui, oui, puisque je suis plombier.
D'accord, eh bien vous avez les moyens d'y aller, donc vous avez entendu le conseil du docteur Philippe Poujol, merci beaucoup. Et donc... On vous dit d'aller dans ce centre pour vous faire traiter contre après cette morsure, un mois après cette morsure. On a parlé de l'Afrique et maintenant on va aller sur un autre continent, c'est le Cambodge. Là aussi le Cambodge, loin de l'objectif d'éradication, 800 décès au moins par an dans ce pays asiatique. On retrouve en direct de Phnom Penh le docteur Sowat Lee, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes directeur adjoint de l'Institut Pasteur du Cambodge, directeur des services vaccination et rage. Combien de cas de morsure sont traités au Cambodge ?
Au Cambodge, nous estimons environ 600 000 de cas de morsure par animal par an. Mais parmi ces cas de morsure-là, nous avons estimé que seulement 40 000 cas de morsure ont pu recevoir la prophylaxie en post-exposition. Ça veut dire vaccination après morsure.
Alors 600 000 personnes qui sont susceptibles d'être mordues, 40 000 traitées seulement. Comment expliquer cette différence ? C'est un manque de moyens ou un manque d'informations ?
Il y a plusieurs facteurs dessus. Il y a la manque de centre de vaccination en post-exposition est un facteur. Il n'y a qu'un centre principal au Cambodge, c'est de l'Institut Pasteur du Cambodge, à Phnom Penh. Il y a des autres centres avec très peu d'activités en province. Donc, en gros, il n'y a qu'un centre principal de prévention contre la rage après morsure à Phnom Penh. Un autre facteur, c'est la manque de connaissances dans la population. Donc, on connaît le mot maladie de chien fou, la rage, mot par mot au Cambodge, mais on ne connaît pas le risque et on ne connaît pas comment réagir après une morsure de chien. Et ces deux grands facteurs-là, comme vous les avez soulevés, ce sont des facteurs majeurs.
Est-ce qu'il y a une vaccination préventive, puisque on l'a compris, la maladie est présente dans le pays. Est-ce que les populations, pour autant, se font vacciner à titre préventif ?
Il existe la vaccination à titre préventif. Mais pour la population en général, cette stratégie n'est pas efficiente, n'est pas tout efficace. Donc, nous devons nous reposer sur un programme bien établi, un programme national de lutte contre la rage, qui n'existe pas encore au Cambodge. Et dans le cadre d'un programme national de lutte contre la rage, l'action la plus efficace, c'est la vaccination des chiens. Donc, voilà.
La vaccination des chiens, bien sûr, avant de traiter les humains mordus, c'est la première mesure. Hervé Bourry, certains pays aussi distribuent, si on peut dire, des appâts aussi pour décontaminer certaines zones. Dans le cas particulier des chiens, c'est vraiment la vaccination.
Oui, je remercie le docteur Sovatli, que je salue, puisque c'est aussi un collègue que je connais bien, qui fait partie du réseau des instituts Pasteur, des 33 instituts, dont beaucoup sont en charge de la lutte contre la rage dans leurs pays respectifs. Et effectivement, aujourd'hui, une des priorités, nous en avons adressé beaucoup durant ce débat, mais une des priorités de l'OMS, de l'OIE et de la FAO, c'est de mettre beaucoup de moyens et d'inciter les pays à vacciner leur population canine, puisque si la population canine est vaccinée, il reste encore évidemment des développements, un petit peu de recherche à faire là-dessus, mais globalement, si la population canine est vaccinée, la rage va s'arrêter et donc les populations humaines elles-mêmes seront protégées. Et donc tous les problèmes d'accès au vaccin que l'on note durant cette émission d'accès des populations humaines sera résolu. Et d'un point de vue coût, la vaccination du chien est bien moins coûteuse et donc est beaucoup plus coût-efficace que la vaccination humaine.
Docteur Sowatli, vous êtes toujours avec nous. Une dernière question, vous disiez tout à l'heure, ce centre de vaccination à Phnom Penh, est-ce que les gens viennent de loin pour se faire vacciner ou est-ce que finalement ce sont uniquement les gens qui sont dans la région de la capitale qui viennent se faire traiter?
La couverture du centre de vaccination contre la rage à Chipastel du Cambodge à Phnom Penh peut couvrir très bien la distance moins de 200 km autour de Phnom Penh. L'accès à la vaccination dans la population dans cette zone est bonne, elle peut être considérée comme bonne, mais au-delà de cette distance, plus de 200 km, la population a des difficultés pour venir jusqu'à Phnom Penh pour recevoir la vaccination après morsure.
Merci beaucoup, docteur Sowatli. Je rappelle que vous êtes donc le directeur adjoint de l'Institut Pasteur du Cambodge, directeur des services de vaccination.
Priorité santé sur RFI.
Hervé Bourry, autre aspect pour essayer de contrôler la maladie, c'est la déclaration obligatoire de la rage. Il faut signaler quand la maladie est là pour justement pouvoir contrôler sa diffusion sur les territoires.
Oui, la déclaration obligatoire est un des éléments de l'arsenal légal qui permet effectivement d'enrichir la lutte contre la rage et ceci participe et contribue au plan national de contrôle. Le problème, c'est que dans beaucoup de pays, ce plan national de contrôle n'est pas établi et donc il y a effectivement un manque de volonté politique sur lequel on essaye de travailler en lien avec l'OMS et l'OIE pour inciter les pays à avancer, à mettre des moyens parce que souvent finalement quand on regarde dans le détail, les moyens ne sont pas aussi importants que cela, mais à se rendre compte que la rage est un problème dans leur pays. Et comme on l'a déjà mentionné, vu que les données épidémiologiques sont peu fiables et faibles, souvent la perception est que la rage n'est pas un problème dans le pays. C'est une perception qui est faite à tort.
Ce fameux adjectif de négliger. Voilà. Il doit y avoir un côté un petit peu rageant, sans jeu de mots, de savoir qu'on traite une maladie qui fait des dizaines de milliers de morts, dixième maladie virale la plus mortelle sur la planète, et que finalement, ça n'intéresse pas grand monde.
Mais non, ça n'intéresse que peu de gens. Il y a malheureusement à peu près 24 000 décès de rage tous les ans en Afrique, et on en parle malheureusement beaucoup moins que par exemple on a parlé d'Ebola.
Un auditeur nous appelle de Bamako, justement au Mali. Malmoudou, bonjour.
Bonjour madame.
Malmoudou, votre question.
Bon, en fait, je voulais savoir, j'ai deux questions précisément.
Oui, on vous écoute.
La première, c'est que je voudrais savoir si vacciner un chien à 3 mois et demi pouvait avoir des conséquences. Je le dis parce que j'avais un chiot que j'ai vacciné à 3 mois et demi. Une semaine après, il a commencé à ne plus manger. Il a développé des vomissements et des selles et il en est mort après. Est-ce que c'est la vaccination qui pourrait être à l'origine de ce qui est arrivé?
Hervé Bourry, vous voulez répondre ?
Bien, non, je ne pense pas que le décès de malheureusement de ce jeune chiot soit lié à la vaccination, monsieur. C'est sans doute autre chose. Et quand vous décrivez les symptômes, c'est sûrement pas en lien. Et même le temps entre la vaccination et l'apparition des symptômes n'est pas en lien avec la rage. Il faut vacciner votre animal. Il faut le vacciner le plus précocement possible. Et d'ailleurs, dans les campagnes de vaccination de masse des chiens, comme celles qui se sont déroulées, par exemple, à N'Djamena au Tchad, on vaccine les animaux le plus tôt possible. Néanmoins, c'est vrai que la durée d'immunisation lorsqu'on vaccine très tôt l'animal est moins longue, donc on conseille de refaire un rappel, une vaccination après l'âge de 3 mois.
Malmoudou, donc ce conseil, si vous prenez un autre chien, n'hésitez pas à le revacciner. Vous aviez une autre question ?
Non, j'ai pas d'autres questions.
Voilà, est-ce que cette réponse vous satisfait ? Vous serez confiant la prochaine fois que vous prendrez un animal ? Vous irez voir le vétérinaire et vous le ferez vacciner ?
Absolument.
Très bien. Merci beaucoup, merci pour votre appel. On parlait tout à l'heure des animaux, vous disiez tous les vertébrés peuvent être touchés. Certains le sont plus que d'autres, les chauves-souris, les chiens, tous en fait... y compris, par exemple, des singes. Certains aussi, il y a des nouveaux animaux de compagnie. Il y a aussi le cas des singes. Les singes sont aussi atteints par la rage ?
Alors, tous les mammifères, on va pas faire un cours de zoologie, mais tous les mammifères...
Mais ça compte quand même, parce qu'il y en a qui ont des singes à proximité. C'est pas forcément que quelque chose qu'on a par snobisme. Ça peut être aussi quelque chose qu'on subit.
Tous les mammifères sont sensibles à la rage. Néanmoins, comme on l'a discuté aujourd'hui, il y a des animaux qui sont considérés comme les réservoirs du virus. Et c'est ces animaux-là qu'il faut cibler. Donc c'est en particulier le chien. Alors, revenons au singe. Le singe, effectivement, peut être infecté par le chien et lui-même donc succomber et éventuellement présenter du virus dans sa salive et donc pouvoir le transmettre à l'occasion d'une morsure. Notre problème, et là je le laisserai peut-être parler mon collègue le docteur Poujol, c'est que nous voyons en France au niveau des centres antirabiques revenir de plus en plus de personnes de destinations lointaines qui ont visité des parcs ou des îles où les primates sont en liberté et où elles ne sont pas averties sur les risques de ces primates, en particulier ne pas manger, ne pas présenter de la nourriture, mais même des fois ne pas s'approcher trop près, puisque ces animaux n'hésitent pas à vous attaquer pour vous prendre votre paquet de biscuits, vous mordre cruellement à cette occasion. Et donc on voit des gens revenir avec des morsures de singes qu'on doit prendre en charge à leur retour.
Docteur Philippe Poujol.
Oui, ben effectivement, je confirme. Et en fait, il y a une portion non négligeable des patients qui sont pris en charge au centre antirabique, aux alentours de 18% des gens traités qui sont par une morsure de singe, qui représente quand même une énormité par rapport à ce que vivent la majorité des gens dans le monde, en Afrique et en Asie, qui sont quasiment jamais mordus par les singes, ou en tout cas qui sont peu concernés. Donc il y a une méconnaissance de la population occidentale vis-à-vis de la faune sauvage, parce qu'elle ne la voit pas au quotidien, parce que nous sommes tous des citadins et que nous avons perdu l'habitude de considérer les animaux comme une source de danger, et c'est la raison pour laquelle on en voit beaucoup, et c'est des attractions touristiques, parce que les Occidentaux n'ont pas cette conscience-là. Oui, donc ça occupe une partie non négligeable de l'activité des centres antirabiques et c'est bien dommage parce que du coup, on voit peut-être pas d'autres personnes exposées à d'autres animaux bien plus dangereux.
Méconnaissance qui frôle l'inconscience quand certains décident de ramener un animal dans leur valise. La dernière fois qu'il y a eu un animal contaminé en France, il avait traversé la Méditerranée a priori, c'était un chat qui arrivait... Bien sûr, ça ne correspond pas à ce qui touche l'essentiel et des gens qui nous écoutent et des chercheurs qui travaillent sur le sujet, mais quand même, il y a encore des gens qui pensent qu'on peut rapporter comme ça un animal de voyage.
Oui, mais ça montre finalement la méconnaissance du risque, qui est la méconnaissance du risque dans les pays tropicaux, qui touche à la fois les populations locales et nos populations qui s'y rendent. C'est une problématique qui est assez large en ce qui concerne l'Europe, puisque dans tous les pays d'Europe sont malheureusement soumis à ce risque de réimportation d'animaux au travers des échanges avec les pays d'en haut aussi. Et pour la France, effectivement, il y a beaucoup d'échanges avec l'Afrique du Nord, donc une très grande proportion des animaux qui sont réintroduits sur le territoire français qui sont enragés proviennent d'Afrique du Nord. Jusqu'ici, ça a été très 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 bien maîtrisé, mais néanmoins, donc c'est l'occasion lors de cette émission d'alerter les populations et européennes qui se rendent vers ces pays dangereux aussi, de ne pas adopter de chiens sur place, ou s'ils veulent les ramener, de les ramener dans le cadre de la législation européenne, c'est-à-dire vaccination et contrôle sérologique.
Alors, on utilisait tout à l'heure le mot de maladie négligée, mais peut-être aussi, après tout ce qu'on vient d'entendre pendant cette heure d'échange, le paradoxe, en fait, les vaccins sont disponibles ou accessibles dans les zones, en fait, peut-être les moins concernées par la rage. Hervé Bourry.
Oui, on considère qu'il y a à peu près 15 à 17 millions de personnes qui sont traitées, donc qui reçoivent une prophylaxie post-exposition tous les ans sur le globe, sachant que ça concerne 4 à 5 injections. Donc vous voyez le volume de doses de vaccins. Malheureusement, la plupart de ces doses, et encore une proportion non négligeable, sont utilisées dans des grandes villes qui ne sont pas atteintes, dans des centres urbains ou alors des pays industrialisés qui ont les moyens de se les offrir. Et pas du tout en Afrique ou dans beaucoup de pays. À la fois les immunoglobulines, le sérum dont parlait le docteur Pujol tout à l'heure, mais aussi le vaccin sont non accessibles. C'est-à-dire que même en voyageant sur une grande distance, souvent, il y a des ruptures d'approvisionnement et le vaccin n'est pas disponible.
Merci Hervé Bourry.
Priorité santé sur RFI.
Comme chaque mercredi dans Priorité en santé, on parle sport, sport et santé, chronique du docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe nationale de judo aujourd'hui. Vous souhaitez parler avec nous de la parution, c'était en mars 2017, d'un nouveau décret qui donne la possibilité aux médecins en France de faire des prescriptions d'activité physique adaptée. On appelle ça aussi l'APA. Alors pourquoi faire des APA et quels sont les bénéfices attendus pour les patients?
Alors en effet Caroline, bon, aujourd'hui on sait que l'activité physique, on parle encore de sport santé, c'est une thérapeutique, alors c'est vrai, non médicamenteuse, mais qui est totalement validée, hein, notamment par la Haute Autorité de Santé, hein, l'HAS, et ça clairement depuis 2011. Alors, l'activité physique agit sur plein de plans, de nombreux plans, hein, à titre préventif par exemple, quelqu'un qui a un risque de souffrir du diabète, hein, des parents est diabétique, eh bien ça diminue près de la moitié le risque de devenir diabétique. Ça agit aussi comme traitement, hein. Une femme qui a eu un premier accès de cancer du sein diminue également par deux le risque de récidive si elle se met à faire de l'activité physique. Ça diminue la pression artérielle, ça aide à traiter également l'espérance de vie de la mucoviscidose, ça agit au niveau de la chimiothérapie, ça aide à mieux la tolérer. Enfin bref, il y a énormément de bénéfices. On pourrait parler de certaines maladies chroniques comme la maladie d'Alzheimer, la dépression, l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde. Bon, en conclusion, l'activité physique, pour peu qu'elle soit adaptée, regorge de bienfaits pour la santé.
Alors, qui peut bénéficier justement de cette prescription?
Eh bien, potentiellement, c'est 10 millions de Français. Hein, tous les patients qui souffrent d'une des 29 affections de longue durée, les fameuses ALD, hein, c'est les 100%, les pathologies qui sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie. Alors c'est le diabète, c'est l'insuffisance cardiaque, les patients qui souffrent de VIH ou de cancer. Et là, il suffit d'aller voir son médecin traitant, hein, qu'il soit généraliste ou spécialiste libéral ou hospitalier, et puis va remplir un formulaire qui va préciser d'abord les capacités physiques du patient, et puis qui va donner des éléments pour pouvoir faire une prescription personnalisée, hein, définir la fréquence, le type, l'intensité des exercices. Donc en théorie, toute personne qui souffre d'une ALD peut aller contacter son médecin traitant. Alors évidemment, en pratique, les médecins sont peu sensibilisés à ça, peu formés et puis pas très disponibles non plus pour pouvoir réaliser ces prescriptions.
Et quel type de professionnels seront autorisés à dispenser cette fameuse prescription d'APA?
Eh ben là, en théorie, le choix du professionnel va dépendre du niveau d'incapacité des personnes. S'il y a des limitations fonctionnelles sévères, par exemple, on a du mal à bouger une articulation, on est extrêmement essoufflé, eh ben là, on va plutôt aller vers des professionnels de santé. Alors, on pense aux masseurs kinésithérapeutes, aux ergothérapeutes, aux psychomotriciens. Et puis, si les limitations fonctionnelles sont modérées ou absentes, là, les enseignants d'activité physique qui sont issus des filières de formation des STAPS, hein, des sports ou encore les éducateurs sportifs sont tout à fait adaptés. Enfin, le médecin garde toujours une liberté d'orienter le patient vers tel ou tel professionnel en fonction des compétences et du savoir-faire de celui-ci et qu'il estime nécessaire. En tout état de cause, le professionnel devra savoir un certain nombre de choses. Un, faire de l'éducation thérapeutique, évaluer la situation initiale du patient, concevoir un programme adapté et individualisé, bien détecter les signes d'intolérance à l'exercice, ça c'est essentiel, savoir réagir évidemment s'il y a un accident au cours de la pratique, et puis connaître bien sûr les principales pathologies chroniques dont les patients peuvent souffrir.
Alors Jean-Marc Sen, c'est un nouveau dispositif, hein, c'est tout récent, il doit certainement encore rester plusieurs points à améliorer.
Et oui, Caroline, hein, ça c'est une très belle initiative, mais c'est un départ avec un départ difficile. Bah, tout simplement parce que ni la prescription, ni la dispensation de l'activité physique font l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie. Alors, bon, il y a bien des moyens qui sont alloués au niveau régional, dans le cadre de certaines villes, certaines mutuelles. Bon, enfin, tout ça n'est pas parfait. Et puis, il y a quelques questions en suspens. Hein. Qui va superviser l'assiduité des patients? Hein, les médecins ne sont pas rémunérés aujourd'hui pour ça. Ils ont une consultation souvent à flux tendu. Voilà, qui va pouvoir jouer le jeu? Bon, là, on a vraiment une affaire à suivre.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. On en reparlera hein, dans Priorité Santé. On vous retrouve chaque mercredi. Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe nationale de judo. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à nos invités en studio, docteur Philippe Poujol, responsable du centre antirabique au sein du centre médical de l'Institut Pasteur à Paris. Merci aussi à vous d'être venu, Hervé Bourri, responsable du centre national de référence de la rage à l'Institut Pasteur, directeur du centre collaborateur de l'OMS de référence et de recherche sur la rage. N'hésitez pas à revenir, hein, on aura l'occasion de reparler de cette maladie, la rage, pour éviter justement qu'elle reste parmi les maladies que l'on dit négligées. Demain, nous évoquerons les risques liés aux avortements clandestins. Notre numéro 33 1 84 22 75 75.
Avec Suno Assurance, notre métier, l'assurance.